Africa 22 Sport avec Yao et Gaël sur Radioactive. C'est parti!
Bonjour, vous êtes bien dans votre émission là, prolongation de la 11e journée, saison 10. Et vous avez fait le bon choix radiophonique. Et dorénavant, vous allez nous écouter. Vous nous écoutez déjà sur votre choix là, www.radio-active.com. Et en même temps aussi sur votre bande FM. Vous avez l'habitude de 101.9. Et dorénavant ce dimanche sur Radio Boa. Il est 11h du côté ici en France, il est midi du côté de Cotonou. On a notre nouvelle correspondante Jocelyne Senaou qui est consomme matin, midi, soir, radioactive. On lui fait un big up hier, on va mettre le zoom sportif du côté des guépards, on les appelle là-bas les guépards pour les hommes et les amazones pour les femmes. Donc elle va nous donner les dernières informations fraîches du côté du Bénin avec la première et la deuxième journée éliminatoire mondiale 2026 qui va se dérouler au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Tout d'abord, on tient une fois encore à remercier tous nos correspondants puisque hier, on était du côté des hirondelles de Bujumbura, c'est-à-dire Burundi, Elvis, Ira, Dukanda. Et là, tout à l'heure, on mettra le zoom du côté de Cotonou. On tient une fois encore à remercier nos consultants. On peut dire, il est vraiment notre consultant. Il est féru du Stade Rennais, trois fois champion de France, 71, 65, 2019. Et amoureux du football africain. Comment va Alain Elio?
Oui, il va très bien, mais tu as quand même dit trois fois champion de France. Non, c'est trois coupes de France.
Ah oui,
on sera champion de France, on ne sait pas quand, mais et alors, ça arrivera.
Oui. Et pour le coup, c'est pas Alain qui est vainqueur de la Coupe de France, c'est le Stade Rennais.
La Coupe de France. Bon, il a compris le message. Ça prouve qu'on ne triche pas. On est comme on est.
Donc, il en a gagné des coupes lui aussi, Alain. Alain, là, on le met, la Coupe du Conseil.
Ah, la première Coupe Pierre Margot. Le Stade Bruchin avait écrasé Ginglin 3-0. Voilà. Et dans les buts, il y avait Gilles Bourges. Il y avait des défenseurs centrales, Gilles Lostis.
Des grands noms du football costa-ricain.
Quelle mémoire. En diagonale de notre consultant du football africain, il est fan. Alain Elio également de football sénégalais. Ils vont voir partenaire en face de Alain Elio. Un habitué de Africa 22 Sport en format Coupe d'Afrique des Nations et en format du football africain, tout simplement football local. Comment va Akram Kelifati?
Bonsoir à tous.
J'aime bien la voix là.
Salut Akram.
Bonsoir. Ça va très très bien. Surtout avec le résultat, tu me connais, quand le Fennec va bien, quand l'équipe nationale va bien,
ça, c'est
le Fennec va bien.
Ça sent le désert algérien.
Et l'UFI Fignac, qu'est-ce qui va bien l'UFI Fignac?
L'UFI Fignac va très très bien, donc on avance très très bien avec la nouvelle équipe dirigeante qui vient d'arriver cette année là. Et c'est de bon augure tout ça.
Ouais, très bien, avec les jeunes.
On va aborder ça tout à l'heure. Il était là hier, on tient une fois encore à remercier, puisque pendant qu'on notre discussion, il n'arrête pas de nous mitrailler, on lui mitraille au niveau photographique, on lui fait un big
up. On l'applaudit, messieurs dames, parce qu'il mérite.
Franck Perrin,
il nous a fait des photos encore le week-end dernier pour la Coupe de France. Bien. Ça va, Franck?
Ça va très bien.
Ouais. Ah oui, samedi matin avec nous, t'étais vendredi soir, samedi matin, t'as dormi ici en fait.
Ouais, tout à fait.
Oui, on fait big up à Pascal, habitué aussi de l'émission, et tous les gens qui nous écoutent, on leur fait big up. Donc on va commencer. Tout à l'heure, on va intervenir n'importe quel moment du côté de Cotonou, où la correspondante va nous rappeler tout à l'heure suite à ce qui s'est passé. Et Akram.
Et puis attends, on va présenter les interviews de la deuxième partie aussi, mon petit Yao. Voilà, moi c'est Gaël. Et alors juste après, on va bien sûr parler. Salut, ça va? Et donc, en deuxième partie d'émission, on va avoir trois interviews. Mais alors, je vous dis que ça. El Hadjilo, l'entraîneur de Paimpol, le grand exploit de la Coupe de France le week-end dernier. Voilà, El Hadjilo, c'est le sosie de Yao. Peut-être pas au niveau de la voix, mais en tout cas au niveau du physique, ça c'est sûr. Vous verrez les photos des uns et des autres, vous échangerez vos figurines Panini. Alors, donc ça, et on aura Stéphane Lamant, l'entraîneur du Dinan Léon FC. Attention, il y a un plateau très haut de gamme. Et pour conclure, Monsieur Sylvestre Salvi, le coach de l'En Avant le Guingamp en 1973. Hein, t'as évolué avec Sylvestre toi aussi.
Entraîné, oui.
Et bien sûr. Un personnage absolument délicieux. Donc voilà. Et puis, une petite parenthèse musicale. On entend en ce moment Prodigy, Smack My Beach Up qui seront à l'Olympia le 10 décembre. Et ça, c'est bon. On peut attaquer mon petit Yao, c'est parti, je faisais juste la petite virgule, voilà.
Vous êtes bien dans votre émission, la prolongation de la 11e journée, saison 10. Et vous avez fait le bon choix radiophonique ce samedi. On va rentrer dans le vif du sujet. Alain, Elio, toi qui connais bien comment ça se passe sur le continent, la première journée, deuxième journée éliminatoire mondiale 2026 Zone Afrique, où on a vu, hier on était avec notre correspondant du côté de Paris, c'est-à-dire Willy Dokunou, qui nous a donné vraiment quelques analyses techniques des derniers résultats. Donc on a vu, hein, donc ça veut dire les petites équipes, ouais. On sait pas ce que c'est, donc tout le monde a faim, tout le monde veut gagner. Donc on a vu Guinée équatoriale, on va commencer par cette équipe du côté de l'Afrique équatoriale, là, et qui a concédé match nul face à Namibie et même au Rwanda, on les appelle les hirondelles. De Rwanda, et non, plutôt les Guêpes face aux Warriors de Zimbabwe 0-0. Alors, ces équipes qu'on n'entend pas beaucoup parler, mais qui résistent, hein, au niveau des résultats. Donc là, ça veut dire que même en Éthiopie, Sierra Leone, pareil, donc ce sont des toutes petites équipes, mais concédé match nul. Et surtout, Alain, on a vu le Ghana qu'on connaissait avec l'épopée des Brésiliens d'Afrique. Là, je crois que c'est en voie de perdition. Ça, c'est mon point de vue, parce que ce n'est pas le Ghana que moi j'ai connu. On en parlera tout à l'heure. Bon, je voulais avoir quelques lectures de tes derniers résultats de la première journée des éliminatoires mondiales 2026 Zone Afrique.
Ah ouais, je vais te couper un peu. J'ai plutôt vu moi la deuxième journée qui la première journée il y avait des matchs éloquents, 9-0,
ouais, c'est la Côte d'Ivoire, les éléphants, ouais.
Mais par contre surtout sur la deuxième journée qui m'a marqué, c'est surtout les de grosses surprises. On va prendre Botswana, qui a battu la Guinée. La Guinée, vous savez qu'il y a Guirassy, Givaloi dans l'équipe. Donc 1-0. Guirassy, il a marqué combien de buts avec Stuttgart, hein? Le Rwanda, hein, qui a battu l'Afrique du Sud 2-0.
Sur
l'Afrique du Sud, c'est quand même une valeur sûre de
Bafana,
du continent africain.
Ouais.
Et la grosse surprise, quand même, les Comores, qui gagnent son deuxième match, le club de N'Changama.
C'est une demi-surprise.
C'est très important, ça.
Qui joue demain contre Guingamp, en fin de compte, avec 3. Il gagne 1-0. Et c'est un but de Maolida. Maolida, il doit plus jouer en France, mais il est à l'Hertha Berlin, je crois. Et il a joué à Nice, Maolida. Donc
c'est pas toi, Filou, hein.
Non, c'est pas toi, Filou. Et autrement, j'ai vu d'autres surprises aussi. La Libye, qui a fait match nul contre le Cameroun.
C'est ça.
Le Cameroun, c'est quand même une valeur sûre africaine.
Bien sûr, 5 fois champion d'Afrique, ouais.
Et il y a un autre résultat qui m'a surpris, le Mali. Ouais. Le Mali, c'était une grosse équipe aussi.
Ah oui.
Match nul contre le Centrafrique, mais bon, il y a eu quand même 15 tirs à 1. Donc, ils ont dû quand même dominer. Et la plus grosse surprise, ça, pourtant, je suis un plus, moi, c'est mon équipe favorite, le Sénégal. Eh ben, le Sénégal a eu vraiment du fil à retordre contre le Togo.
Ah,
là, même dans les stats, tout ça, je vais vous dire, je vais être franc avec vous, je n'ai pas vu le match. Mais par contre, j'ai vu les stats quand même. Et le Togo a quand même fait 15 tirs à 9 contre le Sénégal. Donc ça veut dire que méritait au moins le 0-0. Et après, c'est des surprises, mais autrement, il y a quand même des valeurs sûres. Il y a de grosses valeurs sûres. C'est souvent l'Afrique du Nord. Elle domine maintenant l'Afrique, je pense.
On va aborder tout à l'heure cela avec notre habitué du football africain, en l'occurrence. Il a le sourire, il a deux étoiles sur son maillot. Les Fenech d'Algérie, et là, même en parlant plus, deux matchs, deux victoires. Je ne sais pas comment il fait la magie du désert algérien. Alors, ce que Alain vient d'évoquer tout à l'heure, on voit bien que le côté des niveaux, même c'est un petit avant-goût de la CAN qui va se dérouler au pays de Didier Drogba, oui. De ce qu'on est en train de voir là, avec en phase éliminatoire, mais appétit, mmh. avant-goût de ce qui nous attend genre, ce janvier, quoi.
C'est vrai que c'est un avant-goût de Coupe d'Afrique, ça, c'est clair et net, hein, ce qu'on a vu sur les deux journées qui sont arrivées. C'est le vrai football africain, mmh. donc ça annonce beaucoup de choses. Après, ouais, c'est vrai que je suis surpris, puis même limite déçu de certaines équipes comme le Mali, où je les attendais vraiment très très fort. Là, ils décollent pas depuis quelques années. Et puis, j'ai une autre lecture, moi, sur le football africain. C'est pas vraiment les petites équipes. Enfin, certes, il faut pas cacher le fait que ces petites équipes-là se sont améliorées. Mais j'ai l'impression que c'est plus les grosses nations sûres, comme on dit, les valeurs sûres. Et ben, c'est ces grosses nations où le niveau baisse bizarrement. C'est, enfin, c'est pour moi voir la Côte d'Ivoire ou le Nigeria. C'est affolant en fait.
Oui, ça c'est très important à évoquer. Donc tout cela, on peut dire, ce qui booste ces gens de résultats qu'on est en train de voir, parce qu'il y a à peine 10-15 ans, c'est côté stratosphérique 6-0 ouais. avec ces matchs à sens unique. Là, alors nous parlons, la seule équipe qui a fait un peu en respectant la logique, c'est l'ogre et pharaon de Mo Salah, 6-7 fois champion d'Afrique, et le côté de la Côte d'Ivoire aussi qui ont des scores stratosphériques. Sinon, les autres, c'est vraiment les bras de fer, on peut dire. Mmh. C'est dû à quoi ça, Alain Elio? C'est pas l'effet du champ, championnat africain des nationaux, et panaché avec ceux qui jouent aussi dans des plus grands clubs européens, aussi quand ils reviennent à la maison. Donc, ça permet de bien mettre le niveau au sein de l'équipe nationale.
Oui, je pense qu'ils bénéficient de la formation européenne, mais même je pense que chez eux aussi, ça s'améliore de partout. Parce que je regardais même un petit peu le Rwanda. Mmh. Je regardais les joueurs, ils jouent au Rwanda, hein. Donc ils sont pas dans, il n'y a pas beaucoup, j'en ai pas vu, je ne me rappelle plus du nom des clubs, mais en fin de compte, je pense que ça s'améliore. On avait déjà parlé de ça, Après, c'est un problème d'organisation souvent dans des pays,
de structure, de moyens, clairement,
ou de moyens, parce que, et en plus, on veut s'arracher le phénomène, donc il y a souvent des perditions à ce niveau-là. Mais je pense que ça s'améliore, oui. Il n'y a pas que le football, il n'y a pas qu'en Europe. C'est vrai qu'on bénéficie en Europe de joueurs excellents du continent africain, mais il y a pas que ça. Je pense que ça s'améliore. C'est un continent qui s'améliore et c'est bien pour tout le monde. Ça fait de la concurrence. C'est bien.
Oui, tout à l'heure, on voit ceux qui ont déjà, qui sont toujours fidèles au poste. Je fais allusion comme le Cameroun, qui reste quand même une grande nation, je dis 5 étoiles au niveau continental. Et là, le match, ce n'est que première, deuxième journée. Ça va aller très, très vite. Après, on voit aussi le côté Black Star, les frères Ayou, les Abedi Pelé, tout ça là. Donc, le Ghana, c'est toujours de pire en pire. Je veux avoir ta réaction sur le Ghana avec toi.
Ça fait quelques années. Déjà, j'avais alerté sur la dernière Coupe d'Afrique, sur le Ghana, la Côte d'Ivoire, voire même le Cameroun. C'est comme ça depuis 4-5 ans. Et ça n'évolue pas, en fait. J'ai l'impression que ça fait que d'empirer. Et c'est vrai qu'il y a certaines équipes, comme on dit, il n'y a plus d'amateurs en Coupe d'Afrique. Enfin, dans les équipes africaines, il faut être d'accord qu'aujourd'hui, tous les joueurs qui jouent, même les locaux, ont des formations et puis des entraînements tous les jours comme les clubs en Europe, quoi.
Même la surprise de la deuxième journée, tu évoquais tout à l'heure, on n'a pas évoqué la lecture là, Il Maurice passe à l'Angola, c'est 0-0, ouais. Qui a imaginé 5-6 ans, et Il Maurice qui va concéder match nul contre l'Angola, c'est-à-dire ce sont des toutes petites îles qui sont du côté de l'océan Indien et qu'on n'entend pas beaucoup parler. Maintenant, ça veut dire que tout le monde dit que moi aussi j'existe, quoi, au niveau je vais manger.
Il y a que les Seychelles qui laissent un peu les portes ouvertes.
Ouais, Seychelles, ouais. Et même au Niger, face au Chipolopoulos de Zambie. Niger qui a gagné contre Zambie, alors que Zambie de M. Renard, qui avait coaché cette équipe nationale aussi. Zambie, Niger, le score là, on n'a pas l'habitude de voir le score dans l'autre sens, quoi. 2-1 pour le Niger, ouais. Et puis, donc là, on va voir comment les choses vont évoluer, justement. T'as l'impression d'éviter le sujet, ton équipe favori, le Sénégal, qui est sur le toit du continent, et là on voit le classement général, le Sénégal reste quand même le leader de ce groupe face aux éperviers, mais tous les stars étaient là, mais ça veut rien dire. En même temps, les éperviers veulent pas laisser des plumes.
Non, et puis même on pourrait dire, même là, j'ai regardé un petit peu tous les groupes, il y a quand même des groupes serrés, hein, ça va être serré. Hein. J'avais demandé 3 groupes par exemple déjà. 3 groupes que j'ai notés. Rwanda, Afrique du Sud, Nigeria. Bah, le Rwanda, on ne le voyait pas là, mais il est là.
Il est là.
Le groupe D, Cameroun, Libye, Cap-Vert. Là, ça va être serré, serré.
Les requins bleus, ouais.
Hein? Le groupe I, Comores, qu'on n'aurait pas vu en tête.
Comores, ouais.
Mali et Ghana. C'est quand même un grand groupe, ça.
Comores,
ouais. Et ben, c'est Comores qui mène la danse, hein.
6 points,
mais bah non, c'est vrai que c'est plutôt un match.
Non, mais excusez-moi, je vous coupe, mais les Comores doivent cogner le Cameroun chez lui sur ce fameux match.
Ah oui, oui.
On va malheureusement être obligé d'en reparler parce qu'il y avait eu des émeutes, il y a eu des morts. Mais ce jour-là, démonstration de force des Comores. Enfin, c'est énorme, les Comores. Hein.
Oui, mais c'est, pour moi, c'était une surprise, mais là, ça, c'est plus une surprise.
C'est c'est une confirmation.
C'est une confirmation. C'est vrai.
Franck, toi qui connais le continent africain aussi du côté des étalons du Burkina Faso, on fait un big up à notre correspondant Jean-Modès Ouedraogo qui écoute Radioactif du côté des pays des hommes intègres, le Burkina. Le Burkina aussi, attention, on n'attend pas beaucoup, on va voir la lecture, le résultat du Burkina tout à l'heure aussi, mais attention, le Burkina résiste aussi. Je voulais avoir ta réaction lorsqu'on parle du football sur le continent africain. C'est plus qu'une fête, c'est quelque chose d'une magie qui dépasse le continent. Je voulais avoir ta réaction, toi qui as assisté.
Alors, pour la petite histoire, j'étais au Burkina Faso quand j'étais quand je commençais mon métier de photographe, et j'étais photographe reporter à l'époque, et j'étais pas du tout photographe sportif, c'est-à-dire je ne connaissais même pas le football à la base. Mais j'ai assisté à un match local, c'était dans le nord du Burkina Faso, et c'est vrai que j'y ai vu une ferveur qu'on voit pas forcément en France sur des petites équipes. C'était vraiment des équipes locales. Et je peux vous dire que le stade, il était plein. Ce qui m'avait surpris, c'était sur un terrain stabilisé. Déjà, c'est pas facile. Et j'y ai vu des tacles et des. Et j'ai été enthousiasmé. Et je n'y connaissais rien en football. Et je me doutais loin. J'étais loin de me douter que j'allais devenir photographe sportif d'en avant Guingamp derrière et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a une ferveur qui est quand même très très forte dans ces pays-là.
Oui, pour ajouter ce que tu es en train de dire, moi ça me rappelle qu'on avait 7-8 ans à l'époque où le Ghana nous corrigeait régulièrement face les Black Stars face aux éperviers du Togo. Mais par accident, quand le Togo gagnait contre le Ghana, c'est chômé payé. Donc, il y a une manière, ça c'est un peu.
Chacun voilà, a ses exploits, c'est normal. Exploits.
Et puis là, les équipes du genre, ce que tu viens d'évoquer, quand il s'agit, quand tu es mieux placé, quand il s'agit de la CAN, on évoquait hors antenne tout à l'heure, avec le football en l'occurrence, il y a eu quelque chose pendant un mois où on se focalise sur une harmonie, où on oublie un peu les tintins quotidiens, et c'est le football qui prend le relais. C'est la sensation là qu'on a un peu partout.
Ah oui, en Europe aussi.
Oui, partout, ouais, partout.
Faut admettre. Je revenais sur le Burkina Faso, mais je pense que c'est quand même un pays de sportifs. Il y avait
le
cyclisme aussi, qui est très important là-bas, parce qu'il y avait le Tour du Burkina Faso. C'est vrai.
Ouais, oui.
Parce qu'on voit pas beaucoup de cyclisme en Afrique. Je sais pas si ça se développe beaucoup.
Ça commence, ouais. On avait déjà évoqué avec Gaël Manchek du côté du Rwanda, de l'Érythrée, du Gabon, tout ça là-haut. Le Burkina Faso reste quand même le summum du vélo et du Gabon aussi, hein. Donc c'est vraiment un pays de sport par excellence, même au niveau de l'athlétisme. Ah, quand même, alors, donc, quand même, une actu pour les Fenech d'Algérie, on peut dire en restant quand même prudent. Quand même, le plus dur, entre guillemets, c'est déjà fait. Ou pour les deux premières journées, on a le sourire. Les Fenech ont quand même le sourire avec son coach, non?
Alors, plusieurs choses avec l'équipe d'Algérie. Alors, il y a eu un gros travail de Belmadji, hein, où il a. Il y a des joueurs comme Belaïli qui sont pas là, il y a des gros joueurs absents. Donc il a misé sur la jeunesse, un renouvellement de. Et puis Balasso, ça a pris apparemment. Donc pour les deux premiers matchs, comme tu dis, Ao, restons prudents parce que c'était à la portée de l'Algérie. Normalement, elle ne devait pas rentrer sans les 6 points sur les deux premières confrontations. Mais bon, après, le chemin est long.
Et Alain, lorsqu'on évoque, en même temps, c'est vrai qu'on est dans la zone éliminatoire mondiale 2026, en format mondial 2026, mais ce qui se passe avec le tenant du titre qui est sur le toit du football africain, en l'occurrence les Lions de la Teranga, le Sénégal, je crois que les éléphants sont en train d'envoyer un message fort que, bon, malgré que c'est les éliminatoires mondiales, mais il y a un truc qui se passe chez moi, à domicile, qui s'appelle la Coupe d'Afrique des Nations, où ils envoient des messages forts, deux matchs et 11 buts. Deux matchs, 11-8. Ils ont fait 9-0, ils ont atomisé. Et attends, c'est quel est Quelle équipe ils ont atomisé?
Seychelles,
9-0. Et après, à l'extérieur, ils ont corrigé la Gambie, les Scorpions de Gambie, 2-0. Donc on peut dire 2 matchs, 11 buts.
Gambie, ils ont gagné 2-0 en Gambie.
À l'extérieur. Donc, côté psychologie, un crédit psychologique, disant que bon, la troisième journée, c'est le mois de juin, c'est début juin. Pendant ce temps, la CAN va se dérouler chez eux. On peut dire que là, les éléphants peuvent dire que nous, on est prêts pour... Non, ce n'est pas quelque chose du genre, là.
Ah si, moi, je les avais notés dans les valeurs sûres. Hein. Je vous redis un peu ce que j'avais noté pour valeurs sûres. Le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, naturellement. L'Égypte, qui est toujours là. La Côte d'Ivoire et le Gabon. C'est des grosses équipes, ça.
Oui, le Gabon aussi, on a vu un peu timoré avec le match qu'ils ont fait face aux Hirondins de Burundi, je crois, 2-1. Oui, 2-1. Et puis, même du côté, le Libéria, le pays de Mr. George aussi, qui commence à être inexistant, inefficace sur la plupart des résultats qu'ils font là. Ça fait mal le Libéria qui perd contre Guinée équatoriale. C'est
qui gagne ces deux matchs, Guinée équatoriale.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ils sont présents souvent maintenant. Hein, même les trois, pratiquement. Il y a eu la Guinée qui a fait un mauvais résultat en match nul, battu à Botswana. Mais les autres Guinées. On avait déjà parlé au niveau de la CAN, les trois Guinées. Hein.
Oui, les trois Guinées, oui. Puisque la Guinée-Bissau et Guinée équatoriale et la Guinée...
Je revenais aussi sur l'équipe d'Algérie.
Quand je regarde l'équipe... Face à la Somalie, oui.
Quand je regarde l'équipe, faut voir les joueurs. Il y a des bons joueurs, quand même. Hein. Guiri, Chaibi, Feghouli, Mahrez, Ben Taleb, Ben Sebeini, Attal.
La super trouvaille avec Andrea comme gardien.
Ah oui, je ne connais pas.
Le remplaçant de Mboli.
Quand je vois les noms, ça ne me surprend pas qu'ils soient dans les valeurs sûres. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut voir aussi. Hein, parce que quand on connaît les. C'est vrai qu'après, le fait qu'on les voit jouer dans le championnat de France, ça nous aide aussi
après,
à les connaître.
Après, l'équipe d'Algérie, elle a cette chance de compter sur les joueurs binationaux qui sont de France, on va dire, ou d'ailleurs.
Hein,
ou d'ailleurs en Europe. Et puis, surtout les locaux, parce que depuis 6-7 ans maintenant, la fédération algérienne a... Enfin, même le championnat algérien a pris en...
C'est amélioré.
En professionnalisme, en budget d'ailleurs. Il commence à recruter des joueurs africains pour venir jouer dans le championnat algérien. Donc c'est signe que le championnat algérien va bien.
Ça monte.
Et puis on voit aussi les joueurs locaux qui viennent, s'intègrent super bien aux joueurs binationaux qui viennent d'Europe.
Alain, toi qui es notre consultant du football africain, je voulais avoir quelques réactions concernant les guépards du Bénin. Tout à l'heure, on va avoir Jocelyne Senaou depuis Cotonou. On voit le Bénin, les résultats qu'ils ont fait tout récemment. Le Bénin, c'est vrai que de plus en plus, face à Lesotho, lors de la deuxième journée déjà, ils ont concédé match nul face à Lesotho parce que Lesotho, ce n'est pas une grande nation du football africain. Et puis ils ont.
Vous avez perdu l'Afrique du Sud.
Donc l'Afrique du Sud aussi. Hein. Donc ça va être très très compliqué pour les du côté du Bénin aussi, hein, puisque...
Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme joueur qui domine un petit peu au niveau du Bénin.
Au niveau du Bénin...
Ah si, il y a le joueur qui joue à Brest, c'est Mounier, l'avant-centre.
Oh, bien sûr, mais...
C'est un joueur de Brest, hein.
Oui, Steve Mounier.
Oui, c'est un joueur de Steve Mounier, Bénin. Ouais. Ouais. Outonji, c'est celui qui a joué à Rennes aussi. Qui joue à qui a joué à Rennes, Outunji, qui joue
puisque,
en central.
Face à Bafana, c'est 2-1 en Afrique du Sud. Elle a concédé match nul face à Lesotho. Ce n'est pas une grande nation du football qui sont souvent présents. Et bon, on va voir le mois de juin, la troisième journée j'ai envie d'avoir Jocelyne, mais on aura ça la prochaine fois.
Il y a quand même, on peut revenir sur les valeurs sûres, on peut voir quand même qu'ils ont tous 6 points. Hein, tu prends Tunisie, Égypte, Côte d'Ivoire, Algérie, Gabon. Ils vont... Parce qu'en fin de compte, c'est les premiers de chaque poule qui passent.
C'est ça.
Et autrement, il y aura pour les deuxièmes, il y aura des barrages.
Ça, c'est une question. On est dans le format mondial, c'est-à-dire la 23e édition de la prochaine Coupe du Monde de football. Dorénavant, avec la prestation de ce qu'a fait le Maroc tout récemment, le continent passe du 6 ou 5 nations pratiquement 9 et 10 à la prochaine Coupe du Monde. Donc on peut dire que c'est une excellente nouvelle pour la délégation, pour le continent africain, où on peut espérer de voir régulièrement dans le dernier carré les nations africaines. Ouais. Oui. Allez, je voulais voir ta réaction.
Ah oui, c'est ça.
C'est officiel maintenant.
Ah oui, c'est officiel. Puis là, on voit bien quand même le niveau des équipes. Mais c'est bien, ça va faire du bien. Ça, c'est... Si tu veux, on était toujours habitué au même vainqueur.
C'est ça.
Hein, c'est vrai, on est toujours habitué à l'Allemagne, à tout ça, au Brésil. Bah, le Brésil, ça baisse aussi. Hein.
La France,
l'Allemagne,
tout le temps,
ça baisse
tout
aussi.
Le temps, la, France.
Bah, la France, elle est toujours présente. Hein, sur, c'est vrai, hein, on prend sur les 24 dernières années, sur 24 ans, on est 4 fois en finale. Mais il faut le faire, 24 fois en finale. Hein. 2 fois gagnant, 2 fois perdant. Mais quand même, 4 fois.
Et ça laisse beaucoup moins pour les autres, c'est vrai.
Oui, mais par contre, on voyait que le Brésil qui dominait dans les années de 70 à 2000, ben, n'est plus vraiment là. Bon, ils sont là, mais ça baisse. Ben, c'est un peu le changement comme en Afrique. Hein. Il y a certains pays qui baissent.
Ouais. Ça, j'ai envie de dire la retourne, mais c'est exactement
c'est un peu ça.
Hein, parce que... Oui. Ouais, comme tu dis, le Brésil, l'Allemagne...
Ils étaient toujours en finale ou en demi-finale. Hein.
C'est ça, finalement, on se rend compte que des grosses nations de football peuvent descendre tellement bas. Ah, quand on voit l'équipe de France des années 90...
Oui, Verratti, hein. On se rappelle de 93.
Hein. Ouais, avec le fameux match, Bulgarie, c'est ça. Ouais.
Puis même, ouais. L'Israël, on avait deux matchs, on avait un point à faire dans les deux matchs, on perd les deux matchs.
C'est vrai. Mais bon, c'est le football...
Ça change, ça veut dire que... Là, on parlait tout à l'heure de la formation s'améliore en Afrique. Oui. Bah, ça se vérifie quelque part. Et c'est bien que ça... Du nouveau, c'est bien.
Et surtout, c'est que on a aujourd'hui des équipes africaines en Coupe du Monde, où avant, on pleurait certaines équipes. On n'en avait que 3 ou 4, alors qu'on méritait d'en avoir plus.
C'est ça. Vous êtes bien dans votre émission à Africa Men Sport. Il est midi du côté de...
Il est 11h26, moi.
Ouais, il est 11h26 en France et midi 26 du côté de Cotonou. Non, 11h26 également, puisque avec le décalage horaire, le Bénin et la France, c'est la même heure actuellement. On va essayer de joindre Cotonou. On a Jocelyne Senaou, notre correspondante permanente de Africa Men Sport du côté des Guépards de Cotonou et les Amazon de Cotonou, si on les appelle. Comment va Jocelyne?
Ça va, bonsoir Bandera, bonsoir à toute l'équipe en plateau. J'espère que vous allez bien aussi. Cotonou, ça va très bien.
Ah, Cotonou va bien. Si Cotonou a gagné les deux matchs, là, ça va nous faire du bien face de ton groupe, face à l'Afrique du Sud avec les éliminatoires mondiales 2026, première, deuxième journée. Je voulais avoir une toute petite lecture vite fait concernant ton groupe où tu t'es incliné en Afrique du Sud 2-1. Et puis l'autre match a concédé 0-0 aussi pour la deuxième journée face à Lesotho. On disait Lesotho, les guépards peuvent cogner Lesotho quand même. Donc 0-0, c'est une défaite à l'extérieur, non, Jocelyne?
Déjà, ça ne sont pas très bons, malheureusement, pour les guépards du Bénin, parce qu'on sait qu'au finish, on a besoin juste d'une équipe pour continuer l'aventure. Et malheureusement, on n'est pas du tout sur la bonne ligne. C'est vrai que c'est deux premières journées, mais ce sont deux premières journées qui restent décisives. Et malheureusement, lors du premier match, les Guépards se sont inclinés face aux Sud-Africains sur le score de 2-1. Et lors de la deuxième journée qui a eu lieu mardi dernier, eh bien, Bénin-Lesotho, les deux équipes se sont séparées sur un score nul. Donc, voilà pour le moment ce sur quoi nous sommes. Ça ne sent pas très bon, comme je le disais très tôt. Donc, voilà quoi.
Oui, donc on a vu les autres résultats aussi après. Donc, ça veut dire dans ton groupe, les groupes des Guépards du Bénin, la troisième journée, ça va aller. Bon, on a encore le temps jusqu'à. Ça sera début juin, le 3 ou le 4 juin pour la troisième journée, où tu te déplaces à l'extérieur, non, Jocelyne?
Non, on ne se déplacera plus parce qu'on a joué deux matchs à l'extérieur.
Ah oui, oui.
On a joué la première journée, c'était à Durban. Et comme vous savez, les autos, ils n'ont pas de stade réglementaire en tant que tel. Donc, on a également joué le deuxième match à Durban. Donc, là, pour les troisième et quatrième journées, nous, on va recevoir, on va jouer des matchs à domicile. Je crois qu'on va jouer le Nigeria. Déjà lors de la troisième journée.
Ça va être compliqué.
Décisif, voilà. Là.
Ça, c'est le derby ouest africain, ça. Donc, On aura le temps de débattre cela, on mettra le zoom. Je sais que toi, tu ne vas pas jouer la canne comme les éperviers. On va rester devant l'écran pour regarder les autres, puisqu'on a été éliminés.
Tout à fait, suivre la compétition, malheureusement. Nos équipes n'ont pas pu se qualifier. Et puis, bon, en tout cas, ça reste pour la deuxième fois consécutive depuis 2019, où on a été en quart de finale, qu'on reste quand même là, stagné. Au Cameroun, on n'y était pas. En Côte d'Ivoire, on n'y sera pas. Donc, on va croiser les doigts. Ce sur quoi on comptait, parce que quand le technicien Guérot Roy est arrivé, il a dit que pour la CAN, il ne nous promet pas grand-chose. Mais pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, eh bien, le Bénin va pouvoir se qualifier. Mais malheureusement, jusque-là, on n'a pas de résultat. Ça fait 20 matchs joués sans victoire depuis les derniers matchs. Donc, franchement, je crois que ça, ce n'est pas de très bon augure. Voilà.
Merci. Notre correspondant permanent du côté des Guépards de Cotonou, Jocelyne Senaou. Merci d'être connecté sur ta toile www.radioactive.com. Merci, Jocelyne.
Allez, on va aller tout de suite maintenant sur la Coupe de France avec nos invités que vous allez découvrir. À savoir qu'on va commencer avec Stéphane Lamand du Dinan Léon FC, vainqueur au 7e tour. On écoute tout de suite Stéphane Lamand. À tout de suite. Bonjour Stéphane Lamand.
Bonjour.
Félicitations Stéphane, c'est un plaisir de te retrouver avec moi. Pour une fois, c'est pas sur Cœur Breton, c'est sur Radioactive. Comment vont les Dinanais en ce moment, Stéphane?
Écoute, plaisir partagé déjà Gaël. Et puis, écoute, les Dinanais, on va dire, vont bien. Le classement à cette époque-là de la saison est un peu au-delà de nos espérances pour le moment, donc on est content. Et après, on va dire que ça commence à tirer un petit peu physiquement et on commence à avoir beaucoup de casse. Voilà.
C'est vraiment incroyable ce parcours depuis 2021, quand on s'était eu avec cette saison incroyable et cette épopée Coupe de France, et puis l'année dernière la montée, et puis cette année encore un parcours incroyable. Il y a une recette, Stéphane ?
Non, il y a certainement des choses que l'on fait bien, d'autres, à mon avis, que l'on doit faire un petit peu encore moins bien. Mais non, je pense qu'il y a une dynamique qui s'est créée. Il y a, je pense, un bon groupe de gars aussi depuis 2021 qui travaillent ensemble. Un club qui se structure aussi au niveau administratif, au niveau de l'équipe dirigeante, avec des gens qui nous rejoignent dans l'aventure et qui amènent des nouvelles compétences. Et voilà, je pense que c'est un mix de tout ça. Alors, j'appelle pas ça une recette magique, mais j'appelle ça du sérieux, du travail et de la rigueur dans ce que l'on fait, sans se prendre au sérieux non plus, mais on essaye de bien faire les choses.
Ouais, tu as raison d'insister sur l'équipe et sur les équipes, à la fois administratives et l'équipe sur le terrain, parce que c'est un tout effectivement. Quand un club va bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens très bien tout autour. On va commencer, avant de parler de cette Coupe de France qui est absolument magique encore cette année, par ce début de championnat incroyable, où vous partiez un petit peu tête baissée en se disant on verra bien, et puis ça se passe bien, 13 points avec 9 journées, vous êtes plutôt dans le haut de tableau.
Oui, alors après, il y a des bémols à mettre dans tout ça, mais sur les 13 points que l'on a pris, il y en a 6 ou 7 qui sont pris dans les 5 dernières minutes. Donc, ça prouve que ça tient qu'à un fil. Il faut qu'on soit vigilant. Moi, le total est flatteur. Après, dans les matchs, on est lucide quant à la difficulté extrême, je dirais, de prendre des points. C'est vraiment très, très compliqué tous les week-ends. Vous savez, c'est quand déjà jouer un ou deux gros matchs de Coupe de France par an, ça prend énormément d'énergie, et nous on a l'impression de jouer des Coupes de France tous les week-ends. Et voilà, et je suis pas surpris que là, arrivé à fin novembre, je déplore 5 ou 6 blessés, 5 ou 6 joueurs à la limite, voilà, qui sont aujourd'hui en souffrance et que je dois faire souffler un petit peu. Et voilà, donc c'est beaucoup de sacrifices pour ces points-là. Donc la vraie question, c'est combien de temps on va être capable de durer. Voilà, j'espère le plus longtemps possible, mais pour l'instant, j'ai pas la réponse.
Ouais, vous avez deux matchs importants à venir. Avir, c'est aujourd'hui même, et puis contre le Racing au Clogastel. J'imagine que ces deux matchs, avec la succession ensuite de cette huitième tour de Coupe de France, il n'y a pas un match qui vaut plus que l'autre.
Non, non, non. On a effectivement, il nous reste quatre matchs avant la trêve. Ils sont tous assez importants. Je vais vous faire une petite confidence. Les deux prochains qui arrivent, Vire et Racing, c'est les équipes que j'ai trouvées les plus plaisantes en vidéo depuis le début de la saison. Donc, c'est deux matchs importants. Vire est dernier aujourd'hui avec une belle qualité de jeu, mais un manque d'efficacité. Donc, voilà, l'objectif n'est surtout pas d'y aller pour les relancer. Il faut absolument qu'on arrive à maintenir au moins l'écart qu'il y a avec eux. Donc, voilà, avec une équipe très diminuée, hein, parce que je ne sais même pas si je vais avoir 16 joueurs à emmener samedi. Donc, voilà, la problématique cette semaine est plutôt les blessés que les titulaires. Et puis, le match au Racing, qui est pour moi la plus belle équipe du championnat en termes de jeu. Et pareil, on va les recevoir, et ça fait aujourd'hui, on va les recevoir certainement très diminués, et pourtant on a envie de faire durer notre invincibilité à domicile qui dure maintenant depuis 18 mois, hein, puisqu'on n'a pas perdu de match à domicile depuis le mois de mai 2021. Voilà, c'est deux matchs importants, et puis derrière, il restera la Coupe de France contre Vitré et le derby contre Saint-Malo, qui est toujours une date importante dans le calendrier.
On n'avait pas oublié celui-là non plus. C'est des affiches incroyables pour les spectateurs. Dinan-Léon, c'est un club qui est vraiment très suivi. Il y a une superbe enceinte, à la fois avec ce beau terrain hybride que vous avez, et puis cette tribune, ça chauffe au Clogastel.
Oui, c'est vrai que depuis, vous l'avez dit, hein, depuis un an ou deux, là, depuis cette épopée Coupe de France, il s'est créé quelque chose, et on a un soutien populaire assez important, et on en est fiers. Il y a de plus en plus de monde qui viennent au stade nous soutenir, qui viennent à l'extérieur. Hein, quand on se retrouve à Bastia, il y a trois semaines, avec 50 personnes dans les tribunes de Dinan, on se dit qu'il y a quelque chose qui nous dépasse un petit peu. Donc voilà, on est très content de ça, et on espère le garder le plus longtemps possible.
Ouais, tu as raison d'insister sur Bastia. Vous allez faire 4 partout à Bastia, jouer encore, c'est des souvenirs incroyables. Donc c'est bien évidemment un moment fort de la saison que vous avez vécu là-bas aussi en Corse.
Oui, et puis on avait fait un choix un peu atypique d'emmener la totalité de l'effectif. Donc moi j'ai 20 joueurs et 3 gardiens, donc on est parti à 23 plus 7 dans le staff, donc on est parti à une délégation de 30. Et puis on avait décidé de profiter, hein, ça nous arriverait peut-être qu'une seule fois dans notre vie, profiter pour rester 4 jours. Donc on a eu 2 jours pleins sur le match, et puis 2 jours vraiment de moments conviviaux. Donc c'est vraiment un super séjour qui restera gravé, je pense, dans la mémoire de chacun.
Bon, on revient sur cette Coupe de France qui nous fait vibrer chaque année. Alors, bien évidemment, on se souvient de ce 32e de finale contre le Stade Brestois, hein, que vous étiez sur le point d'éliminer. On va revenir sur quelque chose de plus positif cette année avec la Théâtre Rennes que vous venez de sortir. Un match fou là aussi.
Un match fou parce qu'on est passé complètement à travers notre première mi-temps. Et on a la chance peut-être, hein, d'être mené 15-0. Parce que ils ont 2-3 situations et ils auraient pu faire au moins 2. On est passé au travers, voilà, après on gardera les raisons pour nous, on les a pas en plus, on n'est pas sûr de la vérité, mais en tout cas on s'est dit les choses à la mi-temps et on s'est dit les choses en fin de match. Donc voilà, j'espère que ça nous servira de leçon, et puis un match fou dans le sens où derrière on est mené 1-0 à la mi-temps, et comme l'année dernière, on a une deuxième mi-temps un peu folle où on met 3 buts, où le public nous pousse aussi. Et je pense que c'est vraiment ce que j'ai dit à la fin du match, de l'amour propre, là, parce qu'en termes de jeu, c'était pas bien meilleur. J'ai pas trouvé ça génial même en deuxième mi-temps, mais par contre, on sentait l'amour propre qui allait repris le dessus avec des mots forts du capitaine LM Bongué à la mi-temps. Et donc, voilà, ça a permis de rebooster tout le monde et de se qualifier. Et aujourd'hui, on est content.
Ouais, exactement. Et puis un tirage, il faut le dire, un petit peu favorable quand on reçoit une équipe qui joue un niveau en dessous. C'est quand même plus sympa que d'aller à l'extérieur pour jouer contre un gros. Néanmoins, ces matchs sont toujours très compliqués, et celui qui arrive contre Vitré le sera tout autant.
Et alors, on est aux confidences, je vais vous en faire une deuxième, c'est que je viens de raccrocher avec Laurent Hervé pour essayer d'organiser le match, quelqu'un que je connais très bien et que je respecte beaucoup et à qui j'ai concédé que l'année dernière, le match le plus difficile a été à Vitré, sans aucun doute. On a été ballotté là-bas pendant une heure et demie. Et donc on en a un souvenir qui va peut-être nous aider parce que je pense que les garçons vont avoir peur de revivre la même chose et que l'année dernière le tournant de la saison pour notre montée c'est à Vitré, on en est convaincus. C'est là où il s'est passé quelque chose, on a pris conscience que on était en train de déraper un petit peu et on s'était repris grâce à ça. Voilà. Et quand vous dites qu'on est une équipe au-dessus, voilà, c'est le point sur lequel je ne suis pas d'accord. Et oui, hiérarchiquement N2, N3, je vous l'accorde, mais ceci étant Vitré a aujourd'hui beaucoup plus d'expérience en N2 que nous. Vous prenez les joueurs d'un côté et les joueurs de l'autre. Moi, j'avais 4 garçons qui avaient connu un peu la N2, un peu. Eux, ils ont des garçons qui ont fait des saisons pleines en National 2. Donc, à l'image de la TA, qui alignait plus de garçons qui avaient connu la N2 en début de match contre nous que nous en début d'année, qu'est-ce que j'avais dans mon effectif. Donc, voilà, j'ai tendance à dire que ce sera un bon match de N3. Moi, je me considère encore comme une belle équipe de N3. Pas tout à fait encore au niveau de la N2. Et du coup, ça sera un match certainement très, très équilibré.
Beaucoup d'humilité, on le sent, et c'est ce qu'il faut hein, pour la Coupe de France, savoir rester humble et toujours se souvenir d'où on vient. Bravo Stéphane Lamant, et on est très 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 heureux de t'entendre aujourd'hui sur Radioactive. Par rapport au contexte, est-ce qu'on sait déjà si ça se jouera le samedi ou le dimanche 10?
Oui, a priori, je viens d'avoir l'accord. Alors, j'ai pas validé puisque je vous ai eu juste derrière, mais je viens d'avoir l'accord de Laurent Hervé pour jouer le samedi soir. Donc, il y a de grandes chances que le match soit comme un match de championnat le samedi soir à 18h.
Voilà. Et ça sentira la poudre. On espère une nouvelle fois un grand chelem des clubs costa-armoricains puisque, il faut le rappeler, on a en 8e tour le Stade Briochin, en avant le Guingamp, le Stade Paimpolais et bien sûr le Dinan Léon FC en route pour les 32e de finale. On l'espère, en tout cas, on vibre très souvent en Coupe de France. C'est devenu une spécialité au Claude Gastel, les matchs de Coupe de France.
Oui, ces derniers temps, c'est vrai qu'on est, assez gâtés. Avec même avant l'épopée d'il y a 2 ans, il y avait eu des belles victoires contre Saint-Malo aussi, etc. Donc voilà, c'est bien ce que l'on fait. Après, le record reste un 32e de finale. Donc il faut qu'on ait l'ambition et d'être animé par le fait de battre ce record. Donc j'espère que ça sera pour cette année. Voilà.
Bravo Stéphane Lamant, merci beaucoup. On vous souhaite bien évidemment plein de bonnes choses et on aura forcément l'œil et plus qu'un œil sur le Claude Gastel. Donc on l'a entendu le samedi 9 décembre aux alentours de 19-20h par là-bas. Hein, on suivra ça bien évidemment avec des affiches qui sortiront sur les réseaux sociaux. À bientôt Stéphane et puis bonne chance pour ce championnat qui est génial.
C'est gentil, merci à vous et félicitations toi pour votre émission. À très bientôt.
Merci Stéphane. Ah, on trouve ce petit générique de Chaka Ponk là qui nous plaît bien, générique de la Coupe de France. C'est chez nos amis de France Télévisions. Alors, on enchaîne tout de suite avec un autre entraîneur qui lui aussi a gagné dans le 7e tour de Coupe de France. C'est El Adjilo. Alors là, celui-là, il va te plaire particulièrement, mon petit Yao. Tu vas voir pourquoi. On va parler du Sénégal, puisque c'est de là où vient El Adjilo. Allez, on va tout de suite retrouver à Paimpol au stade de Bel Air El Adji. Bonjour El Adjilo.
Bonjour Gaël.
Ah, je suis très très heureux de t'avoir sur Radioactive aujourd'hui et félicitations pour cette qualification incroyable pour le 8e tour de Coupe de France. Est-ce que tu es remis de tes émotions ou est-ce que tu es toujours sur un petit nuage?
Oui, après oui et non, parce que tu sais, quand t'es entraîneur, on passe d'un week-end, on bascule tout de suite, comme on a 2 matchs importants en championnat, il faut savourer vite et rebondir rapidement, passer à autre chose.
Oui, parce que on le voit venir, on va parler de la Coupe de France bien sûr avec toi, mais on le voit venir ce match de ce week-end très important, puisque à Bel Air, un choc pour cette journée de championnat de R2 avec le Stade Paimpolais qui reçoit le CS Plédran. Ça sera vraiment un match très important en vue du maintien en R2.
Oui, bien sûr. Et puis après, avec les refontes des groupes, tout ça, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Il n'y a que deux montées sur les six groupes. Après, pour garder le rythme et être compétitif, ça passe par la championnat, tout simplement.
Voilà, hein, il faudra être solide cette saison. C'est un championnat de R2 vraiment très serré, avec de très belles équipes dans les Côtes d'Armor, où il y a un niveau de compétition très très proche.
Ouais, là, il y a un très bon niveau. Les équipes, entre à part Pordic qui est un peu décroché pour le moment, mais on a joué que 5 matchs ou 6, parce que nous, 5 pour l'instant, parce qu'on a un match en retard par rapport à la Coupe. Donc ça va être serré jusqu'au bout, je pense.
Exactement, un match en retard contre Saint-Brandan-Quintin, qui promet également, puisque ça fait partie aussi des équipes qu'on pressent pour le haut de tableau. Tout comme Paimpol, il faut le dire quand même, Paimpol est plus habitué aux joutes de R1 qu'à celles de R2. C'est jamais simple pour un secteur comme Paimpol de rester au très haut niveau régional.
Bon, c'est simple parce que c'est pas simple parce qu'on est un peu loin de tout, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Mais avec les covoiturages pour récupérer des mecs à Guingamp, à Lannion, à Saint-Brieuc, on essaie de bricoler par moment avec Bruno Bourguignon qui va ramener les mecs. Et les mecs des covoiturages, les mecs sont en études des fois la semaine. On essaie de leur trouver des clubs à l'extérieur pour s'entraîner, pour garder la forme, en fait.
Ouais, il faut saluer effectivement le travail de Bruno Bourguignon, énorme et puis tellement sympathique, qu'on avait eu le plaisir de découvrir sur la page Facebook Cœur Breton. Un gros clin d'œil pour Bruno. Ce week-end, donc on l'a dit, Plédran, et puis le week-end prochain, un déplacement à Carhaix qui sera aussi important, puisque se profile ce 8e tour de Coupe de France. J'imagine que là, l'équipe va être de retour très focus pour les matchs de championnat.
Oui, c'est ça le danger. Quand on se rapproche de la Coupe, bon, forcément, il y a une appréhension de blessure. Bon, pour les joueurs, dans les têtes, c'est compliqué à gérer. D'être à 200% au championnat, bon, ça peut se comprendre. Mais il faut quand même rester compétitif, se donner à fond pour garder le rythme. Et pour prendre des points quand même, il ne faut pas l'oublier. Comment ça s'appelle, notre pain quotidien, c'est le championnat quand même. Même si en coupe, c'est du bonus, on va essayer de savourer, de passer les tours. Petit à petit, c'est le but aussi. Mais le championnat quand même, c'est très important. On a fini troisième l'année dernière. On n'était pas loin.
Exactement.
Donc là, il faut quand même... Et continuer à s'améliorer. Une équipe progresse d'année en année, c'est une équipe jeune, mais ils ont la soif d'apprendre. Donc je suis quand même exigeant des fois avec eux, peut-être un peu trop, mais la compétition, ça passe par là.
Ouais, on l'a vu effectivement, c'est une équipe très jeune que tu as prise en charge depuis ton arrivée, hein. Tu étais auparavant au FC Lannion. Alors, c'est justement le bon parallèle, puisque ce parcours de Coupe de France a commencé par Lannion. C'est quand même incroyable la succession d'exploits que vous avez dû réaliser, parce que battre le FC Lannion en National 3, deux divisions au-dessus de vous, donc ça c'était pour le 5e tour, c'était incroyable. Quel souvenir toi tu gardes de cette confrontation contre le FC Lannion?
Bah, plein d'émotions, parce que voilà, ça reste la compétition, mais j'ai fait une dizaine d'années à Lannion, mais je les ai battus, mais j'avais le cœur gros, parce que c'est mon ancien club, j'ai fait 10 ans là-bas avec Philippe Cousin, avec qui j'ai des bonnes relations, et l'ensemble du club, mais ça reste du foot, donc on est là pour gagner. Bon, ça nous a réussi sur ce match-là, tant mieux.
Ouais, exactement. Un match très serré, 1-0. Ça s'est joué finalement à très peu de choses. Et puis c'est le début de l'aventure ensuite.
Ouais, c'est ça. Il faut ce niveau psychologique, parce que quand tu dis R2 et R3, les joueurs, ils se croient. Il y a des trous énormes. Après, au niveau des entraînements, on met beaucoup d'intensité. Sur le plan tactique, on progresse d'année en année. Donc, il n'y avait pas de raison. Moi, j'avais confiance.
Bon. Ensuite, donc après avoir éliminé une N3, c'est un déplacement dans une belle R1 avec Vignoc, qui est actuel quatrième du championnat de R1. Vous allez vous imposer 3-0 là-bas. C'est peut-être votre meilleur match sur cette épopée de Coupe de France 2023.
Oui, je pense, parce qu'on a été... on ne fait pas que défendre, on essaie de, d'être compact, d'être solidaire. Bon, j'ai une équipe jeune, solidaire. Après, sur les transitions, on a des mecs comme Adrien Morvan, qui ont de la bouteille, Sam Kosker, qui est Norbert Gomis, qui a joué 1-3 à Lannion aussi, qui nous amène leur expérience avec les jeunes autour.
Ouais. Alors, on arrive à cet exploit contre le FC Flérien, hein, Flair, dans l'Orne, et cette victoire 2-1 avec un scénario absolument incroyable. Ces deux ou trois minutes qui se sont passées là, juste après la pause, c'est quand même un truc incroyable. On a ça qu'en Coupe de France, finalement, des émotions comme ça.
Ouais, c'était génial. En plus, il y avait plus de 1000 personnes au stade avec tous les clubs de foot. Les parents, c'était une très belle fête au stade avec un peu de pression, logique. Mais il y a le scénario, le penalty, il le met à côté. Après, le penalty loupé, on marque en 1 minute 30 de but. Donc, la capacité à l'équipe à réagir, ça, j'ai bien aimé. Ouais, même si l'équipe est jeune. Ils ont une capacité de réaction qui est intéressante.
Un sacré ascenseur émotionnel, effectivement. Flair qui manque un pénalty, Carnac qui marque, et Le Morvan qui marque juste après. En 3 minutes, le sort du match s'est joué, mais il a quand même fallu résister pendant un quart d'heure, hein, sur le dernier quart d'heure du match, avec des exploits de votre gardien, Tanine. Alors son prénom, je ne l'ai pas, mais comment il s'appelle ?
Walid Tanine
qui a fait vraiment un match fabuleux.
Il nous fait du bien. Bon, il a un peu d'expérience aussi. Il n'est pas grand de la taille, mais dans les airs, tout ça, il est présent. Donc, il nous fait énormément de bien. C'est sûr.
Exactement. Alors, c'est un record, hein, égalé pour le Stade Paimpolais, hein, d'atteindre ce huitième tour. Donc, on le rappelle, hein, huitième tour qui aura lieu le week-end du 9-10 décembre. Hein, c'est bien ça, à domicile contre Chaland.
Oui, c'est ça. Ouais. Contre Chaland, bon, on va préparer ça tranquillement. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, ça passe par les deux matchs de championnat pour se mettre dans de bonnes conditions ici. Aussi, on a le temps pour aller superviser, avoir des vidéos, bien préparer ça, avoir les bonnes informations. J'avais dit depuis le sixième tour, c'est mon objectif personnel. Bon, c'était prématuré peut-être de le dire. Mon objectif, c'était les 32e stade. Avec peut-être un peu de confiance, tout le monde ne me prenait pas au sérieux, même au sein du club, mais moi, c'était mon objectif personnel. Après, les joueurs commencent à rentrer dans mon jeu, donc on va essayer d'y arriver petit à petit.
Bien, c'est la parole du sage sénégalais, parce que on est dans Africa 22 Sport, et puis c'est vrai que tu as des origines du Sénégal où on écoute toujours les sages parler et on tient compte de leur avis. Tu as peut-être un petit clin d'œil à passer pour des amis ou de la famille que tu as conservé du Sénégal.
Oui, j'ai encore ma famille là-bas, mon père, ma mère et mes frères. Et puis tous mes amis, bon, qui sont un peu partout en Europe ou aux États-Unis, mais je retourne au pays quand même tous les ans ou tous les deux ans. Donc c'est un pays, même si je suis franco-sénégalais, je suis très attaché à ce pays.
Eh bien écoutez, Eladj, on est très attachés nous aussi au Stade Paimpolais, qui est une équipe qui a toujours fait vibrer les Costa-Mauricains et les Bretons. Vous êtes capable d'exploits incroyables. On vous dit bonne chance pour le championnat, et puis surtout, faites-nous rêver pour ce huitième tour de Coupe de France à domicile à Bel Air contre Chaland. À bientôt, Eladj.
Merci, à bientôt, Gaël.
Ah, Allez, on va tout de suite clôturer ce tour d'horizon des clubs qualifiés en Coupe de France. Et j'ai pas résisté à l'envie, bien évidemment, de parler concernant l'En Avant le Guingamp, parler avec notre Sylvestre Salvi. Bonsoir Sylvestre.
Bonsoir. Un
plaisir de t'entendre Sylvestre. Comme d'habitude, on a avec nous sur le plateau Alain Elio qui parlait de toi tout à l'heure avec beaucoup de nostalgie, n'est-ce pas Alain? Alors Alain.
Oui, c'est avec plaisir de pouvoir parler à Sylvestre. Ben, déjà un bon bonjour à Sylvestre. Oui, il m'a coaché une saison.
À
Saint-Brieuc, hein, Sylvestre.
Tout à fait. Hein. Et avant toi, tu vois, j'avais un message de petit Gilles Roland parce que je l'ai aussi félicité de son. Et bon, écoutons, je rappelais à Gilles que j'ai son fils maintenant en commission technique. J'ai été
Malo, bien sûr.
Gilles quand j'étais en avant et j'ai côtoyé le père quand j'avais les minimes des Côtes du Nord dans les années 75. Oui. Le père s'occupait des arbitres. Trois générations.
Paul Roland, absolument, absolument. Voilà. Très, très heureux de t'avoir ce soir à l'antenne pour parler d'En Avant le Guingamp, bien sûr. Alors, une petite parenthèse, hein, même si tu n'as pas assisté au match à Saint-Malo, les Guingampais ont eu chaud, mais ils sont passés. C'est jamais facile de passer ces tours-là contre des équipes qui jouent un niveau en dessous.
Alors, tout à fait, mais je dirais même que la preuve, la veille, on est bien d'accord, Concarneau, qui est actuellement en pleine bourre, est battu par Saint-Brieuc.
Bien sûr.
Et donc, qui joue dans le même groupe que Saint-Malo, et même, disons que j'aurais misé sur Saint-Brieuc, parce que c'est le foot. Et quand je vois l'équipe d'en avant, bon, il y a des joueurs comme Lawazani qui ne jouaient pas, c'est pas des excuses, mais ce sont des joueurs quand même prépondérants actuellement. Je savais que Saint-Malo à Saint-Malo, ça allait être difficile. Mais c'est la magie de la coupe. Il est certain que là, en effet, j'ai suivi un petit peu le match. Et à la fin, je crois que l'en avant égalise dans les 90e ou dans les arrivées. C'est incroyable. Et c'est la coupe. Et le tout s'est passé.
Voilà. Tout à fait. L'essentiel, c'est la qualif. On est bien d'accord. C'est ce qu'on retient à la fin. Pour ta part, alors je reviens forcément sur cette épopée qui s'est déroulée il y a 50 ans pile. C'est la Coupe de France 1973. On en a beaucoup parlé cette année, mais quel plaisir de se replonger dans ces passes d'histoire, n'est-ce pas, mon petit Sylvestre?
Ah oui, parce que justement, écoute, je me permets de parler aussi de Paimpol, parce que il reste quatre équipes dans les Côtes d'Armor. Il y a deux, je dirais côté Est. Saint-Brieuc est entre les deux, Saint-Brieuc et puis les Nord-Léon. Et du côté Ouest, je dirais qu'il y a, pour présenter le Trégor, le FC Paimpol. Et j'ajouterais que le FC Paimpol va faire partie, va être connu pratiquement en toute la France, faisant partie des trois petits poussins qui sont, et je ne sais pas si on a trois ou deux, qui font partie, qui sont encore en Coupe de France.
Tu fais
donc,
bien.
Je veux dire par là que la Coupe de France relie finalement c'est incroyable. Et tu vois, pour terminer, je dirais sur Paimpol, j'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir entraîné un jour, c'est laissé d'un point.
Ouais. On va reparler bien sûr de ce rôle du petit pousset qu'avait l'En Avant de Guingamp il y a 50 ans lorsque tu étais entraîneur-joueur de cette équipe. C'était incroyable. Et tu étais toi entraîneur-joueur, c'était une fonction qui existait peu. Tu étais un petit peu précurseur dans ce domaine.
Eh ben écoute, je crois que toute ma vie aurait été repartie au football avec des passes. Hein. Dès l'âge de 16 ans, j'étais capitaine de l'équipe des Côtes du Nord qui a gagné la Coupe Cancel, qui était la Coupe, si tu veux.
Cancel, bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Et je suis monté à 16 ans avec Pierre Zirek en DRH et j'ai très vite après pris capitana. Et je suis arrivé en avant, entraîneur, joueur, capitaine, ce qui est rare, c'est vrai.
À 21 ans, c'est ça? À 21 ans, hein, Sylvestre.
22 ans.
C'est fou.
J'ai débarqué à Guingamp le mi-juin et j'avais 22 ans le 3 juillet 1973. J'avais 72. J'ai 22 ans, 72. Je suis dans 5 ans. Et donc, grâce à un homme qui avait senti qu'il fallait, dans une équipe comme Guingamp, cette équipe de jeunes qui avait donné déjà des idées, si tu veux, sur le plan national avec la Comarvella, il leur fallait un catalyseur, quelqu'un pour. Et voilà.
Sylvestre, il nous reste, il est 11h58, oui. Bientôt 59, il nous reste 1 minute 30. Pendant 1 minute 30, j'aimerais, et je sais que ça te tient à cœur aussi, de rendre hommage à Noël Le Graette, qui n'est plus président de la Fédération Française de Football, mais qui a été si important à la fois pour Guingamp, pour la Fédération Française et pour le football en général.
Oui, moi je dois tout, puisque finalement il est venu me chercher à Tolin Jamais j'aurais été un joueur de Ligue 2 sans Noël Le Graët. Jamais les Guingampais, Guingamp n'aurait connu. Noël Le Graët a fait de Guingamp, a transformé Guingamp. Guingamp, c'est resté un village. Avec Noël Le Graët, il est devenu un village ou une ville connue dans toute la France. Ouais. Il a mené en avant un précurseur dans tout. Dans tout. D'une équipe de DSL, il a fait une équipe de Ligue 2. On était encore en D2, 7 ou 8 joueurs avant de jouer en DSR. Cet homme-là a pris la vie de professionnel. Quand on sait les problèmes qu'il y a eu bon, avec Papy, que j'ai bien pourtant, mais comment il a réglé ce problème-là? Fédération, comment il a mené son staff technique en cellule Deschamps, le fameux Guy Stéphane, notre ami Guy, qui est du coin, et puis encore Derrick Paul, et puis Eric Blaïc, et puis encore d'autres encore, ouais. Tous sont passés par Yoya Bruxelles qui est actuellement. C'est quelqu'un qui sentait le football. Ouais. Et puis, en plus...
Je vais être obligé de te couper, malheureusement, mon petit Sylvas, oui. Mais on en reparlera plus tard, tu viendras nous revoir sur Radioactive. Il est l'heure de se quitter, il est midi, et puis on se fait des gros bisous, à bientôt, Sylvas. Comme avant, on se retrouve.